Lorsque je ferme les yeux pour me plonger dans les doux moments de l'enfance heureuse, il m'apparaît une grande maison ancienne en pierre de taille et au toit fait d'ardoise. Nous y venions en famille au mois d'août. Cette demeure contient l'âme de mes aïeux maternels, puisqu'elle est dans la famille de ma mère depuis le milieu du 19e. Mon grand-père nous y accueillait durant les vacances scolaires. Il y a bien longtemps qu'il n'est plus de ce monde, mais je le vois toujours dans les pièces où il avait l'habitude de se tenir, dans son bureau et dans la grande cuisine avec l'évier en pierre. Combattant à 20 ans durant la Première Guerre mondiale, ses poumons avaient été endommagés par le gaz moutarde. Pour mieux respirer, il devait parfois s'oxygéner par un tuyau relié à une poire. Lorsqu'il actionnait cette dernière, le souffle produisait un son impressionnant pour le très jeune enfant que j'étais. C'est l'été, fin août. Les volets de bois sont mi-clos pour garder la fraîcheur intérieure. Une vigne vierge grimpante teinte les murs d'une couleur verte virant au rouge. Tout respire le calme et la sérénité. Le jardin est en fleurs. Le silence ne laisse place qu'au bourdonnement des abeilles qui butinent les hortensias bordant la façade nord de la maison. Enfant, j'avais appris que les hortensias poussent au nord. C'était le côté où se trouve l'entrée principale, la grande porte avec la clé de bronze qui me semblait monumentale, et pourtant, c'est cette façade que mon père appelait le derrière de la maison. Un débat familial s'était instauré sur ce qu'il fallait désigner comme le devant ou le derrière, mais je crois bien qu'il n'y avait que mon père qui appelait la façade donnant plein sud comme le devant de la bâtisse. À quelques mètres du pignon ouest, un cours d'eau traverse le parc. Il s'agit d'un des deux biefs de la Sioule. Le lit principal de la rivière n'est pas visible depuis les abords de la maison. Pour espérer l'atteindre, il faut traverser le petit pont du premier bief. Enfant, c'était le début de l'aventure, comme si je pénétrais dans la forêt amazonienne. Après la première île, il fallait traverser le second bief. Un banc de galets faisait office de guet. Il était prudent de chausser de hautes bottes, non seulement pour ne pas tremper ses pieds, mais aussi pour éviter les morsures de serpents. Sur les rives, l'herbe était haute, le sol humide et la végétation sauvage formaient un repère idéal pour toutes sortes de faunes. Il fallait se frayer un passage entre les ronces, les orties et les branches d'arbres qui jonchaient le sol. C'était un lieu vraiment sauvage, car délaissé de toute intervention humaine. Je me voyais en Robinson Crusoe, en Dr. Livingstone, en Tintin dans l'Henri Cassé ou en Belmondo dans l'Homme de Rio. Cette île, de quelques hectares, me semblait aussi gigantesque qu'un continent. Son attrait reposait sur le sentiment d'aller vers l'inconnu, au risque de se trouver en danger. Qu'est-ce qu'il pouvait bien se trouver au milieu de cette île? Une tribu d'Indiens épargnée par la civilisation contemporaine? Quelques dragons du Komodo? À moins qu'il s'agisse d'un trésor enfoui au fond d'un gouffre. L'exploration prenait fin lorsque j'arrivais à un enchevêtrement de ronces, de branches et de fils de fer barbelés, ou tout simplement lorsque l'appel du ventre m'indiquait l'heure du déjeuner. C'était le signe qu'il fallait rebrousser chemin afin de ne pas déranger les esprits qui habitaient le lieu et laisser sa part de mystère à la forêt. Tout enorgueilli de mon aventure, je pourrais raconter mes exploits à table. En début d'après-midi, aux heures les plus chaudes, chacun s'isolait pour être au calme à la recherche d'un peu de fraîcheur. Certains faisaient la sieste sous les feuillages et d'autres se promenaient le long de l'eau. Dans la maison, il fallait marcher à pas feutrés pour éviter de faire craquer le bois du vieux parquet pour ne pas être entendu de mon grand-père qui dormait dans sa chambre. La torpeur estivale était interrompue par les visites de ma tante, la sœur de ma mère, voisine de quelques kilomètres. Elle arrivait avec sa voiture, une Citroën Ami 8, à l'heure du goûter. C'est alors que nous nous rassemblions à l'ombre d'un grand parasol rouge, installé au centre d'un cercle formé par des chaises de jardin. Nous étions saisonniers, tandis que ma tante habitait le village voisin toute l'année. Elle nous tenait au courant des événements locaux, des potins et des échos que l'on ne trouve dans aucun journal. Dans une dépendance, au fond du jardin, il y a un bâtiment tout en longueur. Ce sont des anciennes écuries qui servent actuellement de garage dans lesquelles s'entasse tout un bric-à-brac. Je ne suis pas assez vieux pour avoir connu les chevaux qui devaient y séjourner, mais je les imagine. Dans une de ces pièces, mon père avait installé une table de ping-pong. Certains après-midi, nous faisions des parties avec revanche et parfois belle entre mon père, mes frères et mes sœurs. C'était le bonheur. Les cris de joie accompagnant les points gagnés à la suite de balles réussies s'entendaient jusqu'à l'autre bout de la propriété. Après le dîner, la soirée se passait à nouveau à bavarder dehors, en cercle, comme dans l'après-midi, autour de la table au grand parasol. Avant de nous coucher, nous faisions un tour de parc en empruntant l'allée en arc de cercle qui menait au portail. C'est toujours un moment apaisant de marcher dans la campagne durant les nuits d'été. Mon père m'apprenait à reconnaître les étoiles qui apparaissaient une à une. Depuis, je pense toujours à lui lorsque je regarde la constellation de la Grande Ourse. Voilà, ce sont des souvenirs d'enfance qui me viennent lorsque je pense à la maison où je passais mes vacances. Je ne m'en rendais pas compte à quel point j'étais heureux. Le jeune garçon voulait devenir un homme parce qu'il ne savait pas qu'il regretterait le temps de l'insouciance. Au bal des facétieux, aujourd'hui, je reçois Maître Olivier Duparc, notaire à Paris. Vous êtes en direct, donc tous les auditeurs peuvent poser toutes les questions qu'ils voudront. Alors, Maître, est-ce la fin de la propriété en France?
C'est une excellente question. La fin de la propriété, le droit de propriété, même s'il est considéré comme étant un absolu dans la Déclaration des droits de l'homme, il a été bien battu en brèche ces dernières années, et il continue à l'être, sur différents plans. Sur le plan du droit public, de l'action de l'État, mais aussi sur le plan privé.
Permettez-moi de vous interrompre pour
Je vous en prie.
vous demander pourquoi vous commencez sur le droit de propriété à partir de la Révolution française. Quel était l'état de la propriété avant la Révolution française?
Alors pour
Si vous
moi,
pouvez, si vous voulez.
oui, avant, le droit de propriété était un droit naturel, donc pas contesté et pas contestable. Aujourd'hui, le fondement juridique vient de la Révolution, puisque tout sort du Code civil en 1804. Et ce Code civil a été fabriqué à partir des notions juridiques qui existaient
Avant,
antérieurement.
hein.
Aujourd'hui, le.
Même si avant la Révolution, comme aujourd'hui, vous allez me dire, il y a des propriétaires et il y a des occupants, mais tout le monde n'était pas propriétaire de sa terre.
Absolument pas, ça dépend. Effectivement, il y avait un droit de propriété, souvent appartenant au seigneur, en tout cas souvent au Moyen-Âge, avec des personnes qui tenaient le lieu pour le compte d'eux et donc ont été plus ou
Le
moins
fameux
locataires.
contrat féodo-vassalique
Exactement.
et les bourgeois qui s'allaient en ville étaient propriétaires de leur
Ex
maison.
exactement.
Revenons à la Révolution. Donc, il consacre ce droit de propriété
Qui
qui a été
consacre.
traduit, je crois, dans l'article 544 du Code civil.
C'est exactement ça.
Merci, maître.
Et le fondement vient des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on est obligé de partir de là, parce qu'en fait, en réalité, le fondement du droit, du système juridique français commence à partir de 1804. C'est à partir du moment où on a commencé à codifier et l'écrire. Avant, c'était du droit coutumier, mais qui n'était que verbal.
Et qui pouvait peut-être être différent selon les régions.
Tout à fait, oui. Le code Napoléon, donc le fameux code civil de 1804, a unifié le système juridique pour en faire pour uniformiser comment dire, le système juridique sur tout le territoire français.
Oui, non, je.
Oui, voilà
Non,
le.
non, le code civil instaure un droit de propriété absolu,
Absolument.
mais il a été très vite entamé.
Alors, pas très vite. Il a été entamé surtout dans l'époque moderne, j'allais dire.
Qu'est-ce que vous appelez l'époque moderne?
L'époque moderne, c'est à partir du XXe siècle.
Ah, bah, presque contemporaine alors,
Ouais,
oui, puisque
ouais.
en littérature, l'époque
Ouais,
moderne,
parce
comme vous
qu'avant,
savez.
ça a toujours été érigé et défendu par comment dire, par le juge et aussi par le législateur pour protéger la propriété privée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouvait avec Proudhon, la propriété, c'est le vol.
Ah oui, on y reviendra. Mais c'est un petit peu une revanche des révolutionnaires sur la féodalité, je pense, au droit absolu de propriété.
Oui, une revanche et surtout une installation de la bourgeoisie dans ce qu'elle avait le plus cher pour elle, c'est justement la propriété.
C'est ça. Elle avait la propriété, mais elle n'avait pas l'ancienneté, elle n'avait pas
Exactement,
les
N
droits
ni la
qui allaient
noblesse.
avec. Oui. Alors, tout le 19e, c'est vraiment l'âge d'or de la propriété.
On peut dire ça, oui.
Alors, quand est-ce que sont apparus
À
les droits
mon sens,
d'expropriation?
tout ça, c'est apparu au XXe siècle, surtout à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945, où on voit de plus en plus de droits d'intervention de l'État sur le sujet, notamment au regard des droits de préemption, des limitations, des nationalisations, choses qui n'existaient pas avant.
Au 19e, il y a quand même, fin 19e, les premières expropriations, il me semble, pour faire passer les chemins de fer, les...
Alors oui, mais la façon dont c'était fait de manière négociée et non pas
Ah,
imposée.
bah, expliquez-nous.
C'est-à-dire que l'État négociait et en plus c'était fait par, comment dire, non pas par l'État. Les compagnies de chemin de fer
Ah oui,
étaient
c'est vrai que
toutes
c'était des
privées.
compagnies privées.
Donc c'était négocié. C'est-à-dire qu'en fait, on négociait
Pour
avec les
achat.
propriétaires de terrain pour acheter les terres les unes après les autres. À partir de 1945, le réseau ferré a été nationalisé.
Non, mais je reviens au 19e parce que c'est quand même là où on a eu un fort développement de du réseau ferré, parce qu'il était même plus riche
Tout
fin
à fait.
19e qu'à l'heure actuelle, on
Absolument.
l'oublie. Et quand je vois toutes ces petites lignes qui parcouraient là, comme des veines des départements français, je me
Exactement.
dis, mais combien de paysans ont dû être, enfin, ont dû vendre leurs
Vendre.
terres,
Ils ont
à
vendu
bon
leur
prix
terre.
peut-être, parce que
Oui,
voilà.
ils ont vendu leur terre. Mais
Ouais.
pour autant,
Oui, ce n'est pas d'appropriation, c'est
on les a pas chassés de chez eux.
un contrat de droit privé. Ouais.
Absolument.
Et le droit d'expropriation réel, c'est-à-dire de l'État qui s'impose en disant, toujours pour comment dirais-je, des raisons d'utilité publique, comme on
Oui,
dit.
absolument.
Il y a toute une jurisprudence
Alors tout
là-dessus.
ça apparaît à partir du, j'allais dire, la deuxième partie du, la deuxième moitié du XXe siècle.
Ah oui, pas avant, même pour des routes toutes simples ou
Ça s'est fait de manière conventionnelle, parce qu'en fait, le droit de propriété étant le plus absolu, et la protection de l'absolu de propriété était même assurée par le
Conseil
Conseil, la Cour de
d'État,
cassation, par l'État. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas de, il y avait
on
pas de,
négociait.
on négociait, puis il n'y avait pas non plus de remise en cause du principe. Cette remise en cause du principe revient plutôt avec, pardon de parler comme ça, mais plutôt avec un État qui devient plus ou moins marxiste.
C'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale.
Me semble-t-il, en tout cas selon moi.
Pourquoi? Parce qu'influencé par une idéologie socialisante,
Exactement,
même communiste.
faut pas oublier qu'en 1945, il y avait des ministres communistes.
D'accord. Et alors pour le développement industriel ou les grandes autoroutes, à partir du moment où beaucoup de nationalisation a lieu, vous l'avez rappelé, c'est à ce moment-là peut-être que l'État s'est senti
Pousser des
dans
ailes,
le
oui.
voilà.
Mais en fait, ça s'est fait petit à petit, petite touche par petite touche. Je peux prendre un exemple, c'est l'histoire des droits de préemption urbain. Les droits de préemption urbain, ça date
Expliquez
de.
aux auditeurs qui ne sont pas juristes ce que c'est.
En fait, lorsqu'on vend sa propriété, la fameuse propriété dont vous parliez tout à l'heure, vous
Ah,
voulez la
Dieu
vendre.
merci, j'ai pas envie.
Vous voulez la vendre à comment dire, quelqu'un qui voudrait
Oui.
l'acheter. Eh bien, il faudra soumettre à la commune, si c'est instauré dans le plan local d'urbanisme, le soumettre
Informé.
à l'informer, même le soumettre à la mairie. La mairie a un droit de préemption urbain.
Alors ça, c'est le travail du notaire, parce qu'on ne pense pas...
Absolument.
Alors
Et ce droit de préemption, en fait, la mairie pourrait acheter en lieu et place de votre acquéreur.
Voilà, on dit cette maison est frappée d'un droit de préemption, c'est ça.
Exactement. Donc ça a commencé par ça dans les années 70, je crois que c'est en 1975.
Ah, c'est très récent.
C'est assez récent, oui. Et ce droit de préemption, à l'époque, c'était ça fait tout un débat parce qu'on a dit, mais là, c'est une atteinte au droit de
Ah oui,
propriété.
tout à fait.
Et aujourd'hui, il y a des droits de préemption venant de la puissance publique, il y en a
Donc, l'État.
des multitudes.
Ah, c'est-à-dire que avant 70,
Ce droit de préemption n'existait pas.
Ah, il n'existait pas.
Non.
Ah oui. Mais alors, comment on a pu faire les premières autoroutes, toujours de gré à gré?
Alors, les premières autoroutes se sont faites sous un autre principe, c'est le principe de l'utilité publique. Et là, on est passé par le jeu des expropriations. Mais ce n'est pas du droit de préemption.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, quand même. Oui, d'accord.
Et là, c'est possible, oui.
Oui, parce qu'il fallait bien
Mais
à
faut...
travers champs.
Exactement. Mais tout ça, il faut que ce soit quand même motivé par l'intérêt public.
Alors, qui détermine sur le fondement de l'intérêt public
L'État.
Ah, il est son propre juge.
Oui, bah oui, il a toujours été.
Ouais, oui, enfin, il a quand même le tribunal administratif, le
Il y
Conseil
a,
d'État.
oui, bien sûr.
Je sais bien que le roi ne peut mal faire,
Bah
mais tout de
absolument.
même. Ouais.
Non, mais en fait, généralement, c'est le préfet qui va décider ça. Mais c'est décidé après enquête publique. Enfin, ça se fait avec
Ouais.
après une procédure. Ça se fait pas comme ça du
Oui,
jour au
du jour au
lendemain en
lendemain.
décidant.
Il y a des droits de recours quand même.
Absolument.
Mais après, ça peut se traduire devant un juge administratif qui peut être du côté des
Absolument, oui, tout à
expropriés.
fait.
Peut-être moins à l'époque qu'aujourd'hui, mais
Oui.
avec la...
Alors, on a une spécificité en France, c'est qu'on a une double, et c'est assez particulier, on a une double, un double ordre
Juridiction.
de juridiction, un ordre judiciaire pour le droit privé et administratif pour le droit public. Donc, l'État est lui-même son propre juge, en fait, et c'est pour ses
Oui, c'est...
propres actes. On
Tout
peut dire que
étudiant,
finalement,
ouais.
c'est pas forcément très.
Pas très équilibré.
Voilà.
C'est ce qu'apprend les c'est ce qu'apprennent les étudiants en droit en première année
Absolument,
avec
oui.
un fameux arrêt qui m'échappe en 1800 et quelques sur le, qui a fondé le droit administratif.
Oh, mais
Maître, c'est trop loin pour vous.
c'est un peu loin pour moi.
Moi aussi. D'autant plus que c'était pas ma spécialité. Moi, j'étais
Non, moi non
plutôt
plus.
droit privé, droit pénal.
Oui.
Mais non, mais il y a un arrêt célèbre, oh, peut-être un auditeur qui va nous le dire, qui a fondé.
Je me demande si c'est pas un arrêt du tribunal des conflits, non? C'est quelque chose qui me revient un peu en mémoire, mais.
Possible. Enfin, en gros, qui condamnait pas l'État, mais qui disait que l'État pouvait vendre des objets ou de la nourriture à condition qu'il n'y ait pas de commerce privé pour pas faire concurrence
Non,
déloyale.
oui.
Je crois que c'était la sortie d'un funiculaire ou d'un téléphérique. Il n'y avait rien en haut de la montagne, évidemment, alors que l'État
Oui.
autorisait, parce que l'État n'a pas vocation à vendre des marchandises. Bon,
Non, certes.
enfin, à l'époque, en tout cas, maintenant il fait tout, mais bon.
Oui.
Et c'est allé jusqu'au Conseil d'État qui a dit, si exceptionnellement, l'État pourra, parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien d'autre.
Oui.
Enfin voilà, enfin, on fait une digression.
Je me rappelle pas du tout,
Ouais.
hein,
Oui, non, non,
mais
mais
ça
bah,
mériterait
c'est pas,
de.
les notaires ne sont pas faits pour faire du droit administratif, hein.
Alors, si un
Par
peu.
accro, mais pas...
Si, un peu, parce que, en fait, quand on s'occupe de permis de construire ou d'expropriation ou de vente de biens publics, on est obligé de s'intéresser au droit public aussi, et pas seulement au droit privé. Même si notre fond de métier reste le droit privé, mais on est obligé de s'intéresser au droit public.
Ça tombe bien. Marguerite va te nous lire une excellente question avec sa belle voix.
Pouvez-vous nous expliquer, pour quelqu'un qui ne connaît pas les principes, l'origine et la finalité de usus et de fructus?
Ah,
Oh,
usus fructus, c'est la part. C'est Olivier qui pose cette question.
Ah oui, mais tiens, mais c'est pas moi qui l'ai
Non, c'est
posé.
pas. Mais oui, bon, c'est un prénom, c'est pas.
C'est une excellente question. En fait, le droit de
Oui.
propriété lui-même composé de trois prérogatives. Pour résumer, le droit d'habiter ou de louer. Le droit d'habiter, le droit de louer et le droit de faire les gros travaux. Quand on a
Alors, usus,
l'usus c'est le droit
c'est
de
l'usage.
l'usage,
Fructus, on
fructus
aura les fruits.
c'est le droit d'en toucher les loyers,
Voilà. Et
et le nu
habitus.
propriétaire, il a juste le droit de faire les gros
Et
travaux.
abusus, alors?
C'est le droit de disposer.
Bah oui, mais vous l'avez oublié.
Non.
Bon, bah,
Non, mais
vous n'avez
là
pas
on
compris.
parlait d'usus et de
Ah, pardon, oui,
fructus.
excusez-moi. Oui, d'accord. Alors,
Mais
oui,
je veux parler de l'usus
ouais.
aussi,
Allez-y,
mais.
allez-y. Non, non, mais... Bah, le droit de propriété, c'est avant tout l'abusus, il me semble.
Absolument,
Voilà.
absolument. En revanche, on démembre ce droit de propriété
Voilà.
avec l'usus, le fructus, c'est entre l'usufruit et la nue propriété, ce qui permet d'avoir des quelques techniques d'ingénierie patrimoniale pour transmettre à moindre coût aux enfants, par exemple.
Donc, un locataire ou est à l'usus.
En fait, non, c'est pas le locataire qui a l'usus, c'est l'usufruitier. L'usufruitier, il a, oui, enfin,
Oui,
oui.
enfin, si, oui.
Le droit d'habiter, effectivement, c'est
C'est le
l'usus,
propriétaire qui a
c'est
le
le locataire.
fructus.
Mais le fructus appartient au propriétaire. Mais en fait, quand on parle de usufruit et de nue propriété,
Ça fait
qu'est-ce que
ça.
c'est? En réalité, on démembre le droit de propriété avec deux côtés, l'usus et le fructus, l'usufruitier, et le reste au nu propriétaire. Mais il peut pas, normalement, il ne peut pas vendre sans avoir l'avis de l'usufruitier. L'intérêt de ce démembrement permet au décès de l'usufruitier de réunir les trois prérogatives entre les mains du nu propriétaire.
Qui devient pleinement propriétaire.
Qui devient pleinement propriétaire. Mais pourquoi on fait ça? Parce que ça permet de transmettre un bien immobilier en fonction de l'âge de l'usufruitier à moindre coût. Donc lorsque quelqu'un décède, enfin lorsque quelqu'un donne en usufruit en fonction de l'âge, pourrait céder 50% de la valeur du bien. Et lorsque l'usufruitier décède, le plein propriétaire est devenu, enfin le nu propriétaire est devenu plein propriétaire avec zéro coût. Donc en fait, en réalité, le coût de la transmission a été 50%.
Puis une affaire de protection aussi pour beaucoup de veuves qui, lorsque le mari décédait, parce que c'est dans la majorité des cas, les hommes meurent avant les femmes.
Oui, c'est statistique.
Voilà, la descendance, donc les enfants qui héritent de droit, ne peuvent pas mettre à la porte leur mère qui ne n'était pas forcément propriétaire.
Alors, c'est vrai aujourd'hui.
Elle a un droit d'usus par la loi.
Oui, c'est vrai aujourd'hui, ça n'était plus, ça n'était pas avant.
Voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette loi.
Exactement, on a fait même plusieurs lois, mais la dernière loi, effectivement, protège beaucoup le conjoint survivant.
Ce qui est très moral.
Ce qui est très moral. Et puis ensuite, on peut renforcer les droits du conjoint survivant si on a envie.
D'ailleurs,
en revanche, on peut aussi déshériter son conjoint.
Expliquez-nous, tiens, c'est...
Par testament, on pourrait tout à fait, un testament, le mari par exemple,
c'est
pour
légal.
Reprendre l'exemple. Ah oui, tout à fait légal.
Mais attendez, parce que de toute façon, le conjoint n'est pas le premier ayant droit. Le premier ayant droit, c'est les
c'est
descendants.
Les héritiers, les enfants.
Après les ascendants, il me semble. Le conjoint ne vient qu'en troisième ou quatrième.
Oui,
mais
en fait, c'est les héritiers, donc les enfants héritent sont les héritiers, mais c'est sauf les droits du conjoint survivant.
Donc, attendez, pardon, répétez.
C'est les héritiers,
oui.
les enfants sont les héritiers, mais c'est toujours sauf les droits du conjoint survivant.
Qui sont les usufruits.
La femme, par exemple, le mari, l'épouse.
Le conjoint.
Ouais. Et donc, la loi protège le conjoint, justement, pour éviter qu'il se retrouve à la rue.
Alors, comment ne pas protéger son conjoint? C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Un testament.
Ah bon?
Un testament, on dit je déshérite mon conjoint parce qu'il était...
C'est légal.
C'est légal.
Ah.
Mais il faut y penser.
Elle m'a trompé.
Eh ben, voilà.
On n'est pas obligé de donner la raison. Elle n'aura rien. Ou il m'a trompé.
Oui.
Il n'aura rien.
Voilà.
Beaucoup d'hommes vivent chez leur femme.
Ça arrive.
Souvent dans les bonnes familles, on donne propriété. Enfin.
Pour reprendre votre exemple, la maison familiale appartenait à la branche.
Ça s'est toujours transmis par les femmes.
Voilà,
toujours. Toujours.
C'est
les gens qui ont géré, mais c'est les femmes qui étaient propriétaires.
Oui.
On se faisait souvent la réflexion en famille que papa n'était pas chez lui.
Oui.
Et c'est toujours le cas d'ailleurs, parce que c'est transmis à une de mes sœurs. C'est très curieux ça. À une époque où on protège autant les conjoints, les pacsés, tout ce que vous voulez, là, on peut dire dans son testament. Si on a des enfants, ça fonctionne. Mais si on n'en a pas?
Alors, les enfants ne peuvent pas les déshériter, parce que ce sont les héritiers réservataires.
Les enfants ne peuvent pas être déshérités?
Non.
D'accord.
Alors, en fonction...
S'ils ont essayé de tuer leur père, peut-être.
Oui, ça, c'est ce qu'on appelle l'indignité.
Ouais,
voilà. Mais en revanche, on ne peut pas déshériter les enfants, sauf la quotité disponible.
Oui. Okay.
Mais les enfants, on peut pas, ils n'ont pas réservataire et on ne peut pas la restreindre. C'est impossible. C'est du droit public.
Ouais.
Enfin, c'est de l'ordre public. Donc, on ne peut pas faire autrement. En revanche, le conjoint survivant n'est pas un héritier réservataire. Donc on fait ce qu'on veut.
Mais donc, c'est pas, si on a des enfants et qu'ils vont hériter naturellement, il n'y a pas besoin de... Ah si, alors on peut déshériter. Alors, pour déshériter son conjoint,
il faudrait
le dire que ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'usage.
D'où l'intérêt d'avoir un testament dans ces cas-là. Mais
d'accord.
Si on ne dit pas de testament, c'est la loi qui va s'appliquer.
Oui, donc il aura le droit d'usage.
Exactement.
Est-ce que c'est valable pour les concubins?
Alors les concubins, ils n'ont absolument aucun droit.
Oui. Ils n'ont pas, s'ils ne se sont pas préoccupés de la loi ne se préoccupe pas d'eux.
C'est exactement
c'est l'adage de Napoléon.
Exactement, c'est ce que disait Napoléon.
Ouais.
Mais.
Même si c'est la mère des enfants.
Même si c'est la mère des enfants.
D'accord.
En fait, elle est totalement. Deux concubins, le concubin survivant. N'a le droit à strictement rien.
Et ça, il faut le savoir, mesdames et messieurs les auditeurs. Et si... Mariez-vous oui. à l'église et devant le maire et le notaire.
Et oui, il faut prévoir un contrat de mariage.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'il faut toujours faire un contrat de mariage.
Ce serait mieux.
Ne serait-ce que par clarté et pas forcément en cas de séparation ou divorce, mais parce que moi, j'avais appris que si un des deux conjoint est poursuivi par les créanciers en cas de malheur.
Ça, c'est une séparation de biens.
Voilà, il vaut mieux séparer les patrimoines parce que sinon, le créancier peut présumer que...
Ce que je dis dans ces cas-là, en matière de contrat de mariage, ce que je dis toujours à des jeunes époux qui veulent se marier, en fait, généralement, on prévoit 3 contrats de mariage dans la vie d'un couple, si le couple arrive jusqu'à la fin. Le premier, c'est le contrat légal, le communauté de biens réduits aux acquets, donc c'est celui, le contrat de base, lorsqu'on se marie, parce qu'on ne prévoit pas de contrat. Ensuite, pour prendre un exemple un peu habituel, le mari travaille et a besoin de protéger son activité économique et aussi protéger sa famille en parallèle.
C'est ça.
On prévoit, il change le régime matrimonial pour avoir un régime de séparation de biens. Donc, comme ça, ça permet de protéger la famille. Ouais. Et ensuite, le mari a bien travaillé, l'épouse est bien occupée des enfants. Tout va bien. Et à la fin de leur vie, lorsque l'époux part à la retraite, on peut prévoir une communauté de biens, une communauté universelle de biens. C'est-à-dire qu'en fait, tout est commun. Ce qui permet de préserver l'épouse de manière la plus étendue possible.
Il y a aussi des histoires de dons aux derniers survivants.
Oui, alors ça c'est un autre acte. Oui, ouais. ça peut se prévoir.
J'ai entendu ça.
Ce qui permet d'étendre... les droits de l'épouse, voire du conjoint survivant, on va dire, du conjoint survivant, un peu plus que ce qui est prévu dans la loi. Déjà, la loi déjà est bien protectrice.
Alors faisons un détour par la moralité sur ce droit de propriété. Parce qu'après tout, Proudhon, comme vous l'avez rappelé, disait « la propriété, c'est le vol
ouais. !»
Mais il ajoutait que la propriété légitime, c'était le bénéfice de son travail.
Oui.
Donc... c'était pas toute la propriété. Lui, il visait peut-être l'héritage, ceux qui ont des propriétés sans avoir peiné pour l'obtenir.
Il n'y a pas si longtemps que ça, la présidente de l'Assemblée nationale a dit que c'est de l'argent qui tombait
du ciel. Voyons.
C'est du même esprit. Hein.
Oui, bien sûr. Oui, mais c'était amusant comme l'histoire est un étalement, le recommencement.
C'est un recyclage d'idées.
Pour Proudhon, la seule source légitime de la propriété est donc le travail. Alors, l'Église, mais c'est un peu la même chose.
Oui.
Alors, c'est le pape Léon XIII qui a, dans une encyclique, Rerum Novarum, de 1891, a dit que la propriété était tout à fait légitime puisqu'il permet à l'homme... à la famille de subsister, de se projeter, de jouir du fruit de leur travail.
Exactement.
Ils insistent.
Tout à fait.
Donc c'est le mouvement social de l'Église qui admet tout à fait la propriété, mais là toujours avec un petit côté, il faut le mériter,
oui.
L'impression.
Et pour moi, le droit de propriété, c'est un droit naturel. En tout cas, dans les enseignements de l'Église, c'est un droit naturel qui n'est pas contestable.
Mais est-ce qu'il peut se transmettre alors ?
Oui, bien sûr.
Pourquoi ?
Et pourquoi pas ? C'est un droit de propriété.
Elle ne parle pas d'héritage.
C'est un droit de propriété, il se transmet. Un droit de propriété, c'est un droit comme un autre.
Non, mais je cherche la petite bête parce que s'il fallait avoir des biens uniquement par le fruit de son travail, en France, il n'y aurait plus grand monde de propriétaires.
Hein. C'est certain.
Parce qu'aujourd'hui, on ne s'enrichit pas beaucoup par le travail.
J'allais même dire qu'en fait, aujourd'hui, on constate que la société est en train de se paupériser en France.
Nous y reviendrons. Donc, pour en revenir à l'Église, c'est un droit protégé, mais ce n'est pas un droit absolu, contrairement à ce
non,
que affirmait la Révolution.
Oui, c'est vrai.
L'Église dit qu'il faut distinguer à la fois le collectivisme et l'individualisme. Le droit de propriété est réel, mais subordonné.
Oui.
Le catéchisme rappelle que la destination universelle des biens demeure primordiale et que l'autorité publique peut réguler l'exercice du droit de propriété en vue du bien commun. Donc,
on revient à l'idée.
Donc, en fait, il y a quand même... j'allais dire pour une fois, au 19e en tout cas, la société civile était encore imbibée du catholicisme. C'était assez moral de dire, mais il n'y a pas un droit absolu à la propriété à partir du moment où il y a abus de propriété ou confiscation.
Alors, je vous arrête deux secondes.
Oui, arrêtez-moi même plus souvent.
C'est vraiment l'action des tribunaux pendant tout le 19e siècle de protéger de la manière la plus ferme le droit de propriété. C'est vraiment la constante du 19e siècle.
L'âge d'or de la propriété.
Oui. Ce qui n'est plus le cas à partir du 20e siècle.
Ben nous allons y arriver parce qu'il y a tellement d'atteintes à la propriété. Vous en avez cité deux déjà.
Oui.
Le droit de préemption, mais qui est très récent, d'après ce que j'ai compris.
Oui.
Et le droit d'expropriation, qui est peut-être un peu plus ancien.
Il y a la nationalisation aussi.
Mais, oui, on va y arriver, mais il y a des choses qui sont plus compréhensibles. Déjà, les servitudes, par exemple.
Oui. Alors, là, c'est une limitation au droit de propriété, mais conventionnelle. Pourquoi on fait une servitude? Oui, c'est forcément conventionnel, sauf des servitudes de droit public. Mais c'est après. En fait, en réalité, je pense que sur les droits de propriété, aujourd'hui, il faut distinguer deux choses. Les droits de propriété, enfin les suppressions de droits de propriété et les atteintes aux droits de propriété, ce qui n'est pas tout à fait pareil, ou les privations de propriété.
Vous faites bien de le préciser, maître.
Et aujourd'hui, les atteintes aux droits de propriété, c'est essentiellement les expropriations, les nationalisations. Ça existe et c'est souvent motivé. Et c'est motivé par l'intérêt général ou l'intérêt public. Et c'est là ensuite garanti par la Convention des droits de l'homme. Donc on peut porter atteinte aux droits de propriété, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a eu une
la France serait condamnée.
Elle a déjà été condamnée pour ça, pour avoir atteint le principe du... la Convention des droits de l'homme.
Il faudra d'ailleurs faire entre parenthèses, le fameux ISF à un moment était sur la sellette, si je puis dire, parce qu'il y a eu des recours comme quoi il était confiscatoire, puisqu'à certains montants, ça confisquait plus de 60-70%, d'où le bouclier qu'avait voulu faire Sarkozy. Mais je dirais, pour une fois, l'Europe était d'accord.
Oui.
Mais le droit français a tout de même trouvé un moyen de dire non, c'est tout à fait normal qu'on puisse vous spolier en prenant 60-70% de vos biens.
De même, dans la même idée, parce que ça, c'est un impôt sur le capital qui est en soi choquant, parce que si le capital en soi ne produit pas de revenus,
vous pouvez pas les payer.
C'est pas normal de pouvoir payer une taxe là-dessus.
Sur des non-bénéfices.
Exactement. C'est la même chose que ce que ne comprennent pas les étrangers quand ils viennent en France, surtout ceux qui sont en dehors de la zone économique européenne. Quand ils sont propriétaires d'un bien immobilier, ils doivent payer une taxe annuelle de 3% sur la valeur du bien. Et ils ne comprennent pas...
En France.
Ils ne comprennent pas qu'ils soient obligés de payer cette taxe.
De 3%?
3%, c'est la taxe, c'est la TVI, la taxe sur les valeurs immobilières.
Et pourtant, ils payent déjà la taxe foncière.
En plus, oui.
Je ne savais pas ça. Un étranger, un Suisse, un Allemand, un Italien.
Alors, pas un Allemand, pas un Italien, mais un Suisse, oui, un Américain.
En dehors de la zone euro, peut-être.
Et donc,
Attendez, vous êtes en train de dire un Suisse, qui est un pays quand même limitrophe de la France, qui n'est peut-être certes pas dans l'Union européenne, et tant mieux pour eux. Oui. S'il a une propriété en France, il devrait payer...
Cette fameuse taxe de 3%.
Par an, la valeur du bien.
Et oui.
Ah, ça alors, oui.
Et donc, ça correspond quand même à une petite spoliation, quand même.
Bah oui. Et un franco-suisse.
Ça dépend si le franco-suisse est résident en France ou pas.
Ah, c'est du droit privé, administratif, c'est très compliqué.
Oui.
Le droit s'appuie par rapport à la personne ou par rapport... pour déterminer la maison, par définition, elle est française, puisqu'elle est sur un sol français.
Oui, la maison est française, mais enfin, généralement, si vous avez un Suisse qui est propriétaire d'un appartement à Paris, c'est juste pour y passer...
En résidence secondaire.
En résidence secondaire.
Ah, mais c'est pas la même chose.
Si c'est sa résidence principale et il paye ses impôts en France, non, il ne paiera pas cette taxe de 3%.
Ah, d'accord. Ah, donc je précise qu'un franco-suisse qui habiterait le plus souvent en France... ne paie pas cette taxe. D'accord.
Alors, c'est amusant que vous utilisiez cet exemple parce que ça m'est arrivé une fois dans un dossier il y a un petit moment. C'est peut-être pas très moral, mais je vais vous raconter quand même. C'est assez drôle. Parce que c'est un avocat suisse qui avait acheté un appartement pour y retrouver sa maîtresse, un appartement à Paris pour retrouver sa maîtresse.
Ceci ne nous regarde pas.
Mais, et Donc, il achète cet appartement, se passe 10 ans, 11 ans.
Une garçonnière de luxe.
Une garçonnière de luxe. Et derrière tout ça, il revend son appartement. Et puis, cette taxe de 3%, il n'a jamais payé. Ben, il s'est retrouvé, au moment de la revente, obligé de payer le rattrapage des 3%.
Depuis combien d'années ?
Alors, 3 ans plus l'année...
L'année en cours.
L'année en cours.
Mais parce que le fisc, il y a prescription 3 ans.
Oui, c'est ça. C'est 3 ans plus l'année en cours.
Oui.
Mais ça lui a fait une drôle de surprise, il ne s'attendait pas, et j'ai entendu hurler comme un putois au bout du téléphone.
Ah ouais. Et c'est de la faute du notaire, alors ?
Non.
Vous l'avez dénoncé ?
Non plus.
Vous avez un devoir professionnel ?
Non plus, mais en fait, quand on vend, il y a un autre système fiscal, ça ne touche pas le droit de propriété, mais il faut savoir que lorsqu'on vend une résidence secondaire, on est obligé de payer des plus-values.
Oui.
Quand on est en France, il n'y a pas de problème. En revanche, quand on est étranger... on est obligé d'avoir un système de représentation accrédité. Donc en fait, c'est une sorte d'établissement privé, financier, agréé par l'État, et qui se porte en quelque sorte caution au profit de l'État pour le paiement des plus-values. Donc normalement, aujourd'hui, les plus-values, on les retient sur le prix de vente, et on paye directement l'administration fiscale. Mais enfin, il y a toujours ce délai de reprise dont on parlait tout à l'heure, de 3 ans plus l'année en cours, ou l'administration fiscale qui, de toute façon, va ouvrir le dossier la dernière année, parce que comme ça, les intérêts se cumulent et la pêche sera meilleure.
Ah oui. Mais ça, c'est pour les étrangers.
C'est pour les étrangers. Et donc, la représentation d'acquidité, on est obligé de passer par un établissement financier pour représenter les intérêts. Pourquoi je parle de ça ? Parce que lors de la vente, avec mon exemple, je vous parlais tout à l'heure avec mon Suisse, on a été, donc cet établissement de représentation accrédité épluche les impôts. Parce que comme il est caution, il ne veut pas avoir à payer des taxes qui n'auraient pas été payées. Et donc, en épluchant, il pose la question des 3%. Est-ce que ça a été payé ? Non. Bah, écoutez, il faudra les payer. Voilà comment ça s'est passé.
Alors que pour un Français, je crois qu'il y a extinction des droits, des taxes sur les plus-values à partir de 30 ans.
Oui, au bout de 30 ans.
Avec une décote. Hein.
30 ans de détention.
Voilà.
Parce qu'en fait, en plus, sur les plus-values, il y a un double effet qui se coule. Il y a la partie imposition, c'est 22 ans. Puis ensuite, il y a la partie des sauts sociales,
oui.
Le CSG, CRDS. Ah. Et ça, c'est jusqu'à 30 ans.
Une belle vacherie.
C'est une vraie vacherie. Ouais.
Mais bon, ils sont, y a des cotes de tous les ans, je crois.
Alors, en matière d'impôt sur les plus-values, c'est 5% à partir de la cinquième année. Ensuite, pour...
5%
d'abattement.
D'accord. Oui. Qu'à partir de la cinquième année. Ils sont de combien de...
L'impôt.
Mais l'impôt, ça veut dire quoi par
La
valeur.
Sur la partie impôt, oui, c'est toujours
pas,
sur...
C'est 28%,
en fait, on taxe, non pas sur la valeur, mais on taxe sur la différence entre le prix de vente et
bien
le prix d'acquisition.
Bien sûr, oui, la plus-value.
Et donc, cette plus-value, c'est ça que...
J'ai bien compris ce que c'était qu'une plus-value. Je vous demande le taux d'imposition de la plus-value.
16% en matière imposition, 16 ou 17%.
Ouais.
Et ensuite, le reste, c'est la CSG, CRDS. On arrive à tout, quelque chose comme 34%.
Alors, ça tombe bien, parce que il y a un auditeur, là. Tenez, Marguerite, il faut que vous travailliez un petit peu.
Merci. Dans quel pays européen les frais sont-ils les plus bas ? Je sais qu'en Italie, on ne paie rien en dessous d'un million d'euros.
C'est bien possible. Je sais qu'aujourd'hui, l'Italie est devenue un paradis fiscal.
Ah oui, pour un Français. De toute façon...
Français,
je n'aime pas ce terme de paradis fiscal parce que pour moi, c'est la norme. C'est la France qui est un enfer fiscal.
Oui,
c'est toujours agaçant de dire il y a des pays qui sont des paradis fiscaux. Non, ça devrait être la norme.
Oui.
C'est la France qui est un enfer fiscal.
Oui.
Tous les étrangers sont très étonnés de constater combien nous sommes matraqués à tous les étages.
Et je vois tous mes clients étrangers quand ils viennent en France, ils sont effarés par les impositions dans tous les sens. Ils savent plus comment faire et beaucoup fuient la France à cause de la fiscalité et de l'instabilité fiscale.
Mmh.
On ne peut pas avoir d'avoir une projection sur le temps de combien ça va nous coûter en taxes. Et ça devient insupportable.
Je reviens sur Proudhon, un auditeur me dit. Je reviens sur la citation de Pierre-Joseph Proudhon, qui est mal retranscrite et donc mal comprise, la voici. Non, mais c'est possible.
Il a bien raison.
Où trouver une puissance capable de contrebalancer la puissance formidable de l'État, il n'y en a pas d'autre que la propriété. Alors, s'il a dit ça, ça veut dire qu'il se contredit. Il
est pour la... Peut-être qu'il se contredit, mais en tout cas, c'est intéressant d'entendre cette citation.
Oui, ça...
Parce que ça correspond bien à l'état d'esprit du 19e siècle, justement. Ce droit de propriété est absolu.
Bah oui, mais ça contredit la propriété, c'est le vol.
Ah, complètement.
Bon, enfin, à creuser. Mais bon, on ne va pas passer la nuit sur Proudhon. Une autre question. Bonsoir, merci pour la TVI qui me fait penser à des États qui interdisent à des étrangers d'acheter une résidence secondaire comme le Danemark ou l'Autriche. Les Qataris chez nous ne paient pas de plus-value grâce à Sarkozy.
Ce qui est vrai.
Et TVI, c'est quoi, taxe?
C'est la taxe sur la valeur immobilière. Ah, c'est la fameuse taxe de 3%.
C'est vrai que les Qataris...
Bah oui.
Ah, mais je ne savais pas. Et pourquoi pas eux?
Et ils ne sont pas les seuls, parce qu'on parle des Qataris, parce que c'est l'exemple le plus connu, mais les Émirats Arabes Unis aussi, c'est pareil. Parce que tous ces gens-là... Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces gens-là ont financé les campagnes électorales des uns et des autres. Donc il faut bien qu'il y ait un retour sur investissement de la campagne électorale. C'est comme ça que ça s'est passé.
Ah bah, vous en apprenez des choses. Et je crois que c'était la Libye...
Alors, les Libyens ne bénéficient pas de régime favorable aujourd'hui, parce que je crois qu'ils ont eu quelques soucis. Ouais. J'ai bien compris.
Ce que je trouve incroyable, c'est que le droit international public permet des différences.
Oui. Mais ça se joue par le biais de conventions bilatérales.
Ce qui renforce la souveraineté des États en même temps.
Absolument.
Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale.
Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire. À tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à l'abbé Pierre. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Liberté de penser. De penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas, n'aurai pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent, partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie au bal des facétieux. Et mon invité est Maître Olivier Duparc. Nous parlons de l'atteinte au droit de propriété.
C'est ça.
Alors, nous allons aborder les troubles anormaux du voisinage. Qu'entend-on par là ?
Alors, on pourrait considérer que si on exerce notre droit de propriété de manière la plus absolue, on fait ce qu'on veut chez soi.
Oui.
Sauf qu'il y a un autre tempérament. La liberté commence, enfin, s'arrête là où commence celle des autres.
J'ai entendu ça.
Oui.
Tout le temps. Les autres. L'enfer, exactement. C'est les autres.
Aussi. Et donc, un trouble de voisinage pourrait résulter soit d'un abus de droit, soit le fait de faire trop de bruit pour gêner le voisin d'à côté. Et donc, c'est ce tempérament qui permet aussi d'un peu de calmer ou de limiter un peu les droits du voisin, quoi. Il y a un exemple d'une jurisprudence assez connue. C'était un propriétaire qui avait mis des herses très hautes sur son terrain pour éviter que le voisin d'à côté puisse traverser avec ses ballons. Ça a été jugé
avec ses ballons,
avec son ballon, une montgolfière.
Ah carrément.
Et,
ah
oui, précisé, et ça a été jugé comme étant un abus de droit. Mmh. Donc en fait, on fait ce qu'on veut chez soi à condition de ne pas gêner le voisin ou pas.
C'était à quelle époque ça? Il n'y a pas beaucoup de montgolfières.
Non, mais c'était au début du XXe siècle.
Ah oui, c'est un précurseur. Là,
et cette théorie est...
Mais là... Sauf que vous dites que c'est un abus de droit de la part du voisin, donc Amélie Herse.
Absolument.
Mais il pouvait arguer, c'est ce que j'aurais dit, j'ai pas envie d'être espionné.
C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis chez moi, je fais ce que je veux.
Oui.
Et le juge a décidé que il abusait de son droit.
Ah.
C'est ce qu'on appelle un abus de droit. Un trouble de voisinage est un abus de droit.
Alors, le bruit et l'odeur et les fumées, je comprends bien. Mais si, par exemple, quelqu'un creuse... je ne sais plus, il y a une norme sur jusqu'où on est propriétaire du sol.
Alors, on est censé être propriétaire jusqu'au tréfonds de la terre et jusqu'en haut du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, on a son terrain, on est propriétaire jusqu'au centre de la Terre.
Jusqu'au firmament.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé, ça c'est la pratique notariale qui a créé ça, c'est la volumétrie, pouvoir dissocier le terrain du tréfonds ou de l'espace aérien. Donc autrement dit, on a permis de pouvoir imbriquer dans des volumes différents. Alors c'est très technique. Alors,
si on est propriétaire jusqu'au zénith,
oui, c'est ça.
Ce qu'on a à dire, ça veut dire qu'on peut plus, on peut s'opposer au passage des avions.
Exactement. Mais alors, c'est pour ça qu'il y a une.
Dans les faits, c'est pas vrai. Alors,
oui,
maître.
Mais en fait, normalement.
Là, on débloque totalement.
Le droit de propriété, c'est ça. En revanche, pour les avions, il y a des servitudes de passage de droit public.
On demande l'avis à personne.
Oui, mais de droit public qui empêche le propriétaire de s'y opposer. C'est une atteinte au droit de propriété, mais il en demeure pas moins.
Vous allez un peu loin.
Oui, mais c'est tout à fait ça.
À 300 mètres d'altitude, on est encore propriétaire du nuage.
300 mètres, peut-être un peu plus.
Même un peu plus. Kilomètres. 300 mètres, quand vous n'êtes pas loin d'un aéroport. Moi, personnellement, j'habite pas loin d'un aéroport. Les avions, ils passent à 200 mètres au-dessus de chez moi.
Et ça pose beaucoup de problèmes pour les voisins de Roissy, par exemple.
Mais personnellement, ça ne me gêne pas du tout. J'aime beaucoup voir les avions voler, moi. Oui. Je préfère ça que les motos et les scooters. Le bruit des motos, des scooters, ou ceux qui parlent fort.
Oui, je vois.
Non, j'aime bien, moi, les avions, ça ne me dérange pas. Mais en revanche, alors, sous terre, par exemple, si je veux creuser jusqu'à, je ne sais pas, moi,
si vous pouvez
50
creuser,
mètres...
Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Tant que vous le faites...
Vous êtes sûr de vous?
Certain. Tant que vous le faites chez vous, faites ce que vous voulez. En revanche, si vous creusez une galerie au droit de
chez vous évidemment,
et que ça tourne à droite chez le voisin,
cambrioler la banque comme dans
chez Spadjari,
comme dans le film avec Louis de Funès, je crois que si c'est fait sauter la banque ou quelque chose comme ça.
Ça me dit rien.
Il habite au rez-de-chaussée et en face de chez lui, de l'autre côté de la rue, il y a une banque. Et il passe son argent, il se fait avoir parce que le banquier ne lui donne pas de bons conseils.
Oui.
Donc il considère que la banque a une grosse dette envers lui. Et
pour se venger, il va se servir.
Oui. Et il creuse un tunnel sous la rue pour aller dans la chambre forte.
Là, il y a en plus violation du domaine public.
En plus, oui. Mais je ne conseille à personne de faire ça. De toute façon, il n'y a plus d'argent dans les banques maintenant. Mais revenons à le droit. Donc vous êtes sûr qu'on peut creuser, mettons, aller du n'importe quoi, 50 mètres, ce qui fait 10 étages de sous-sol.
Oui. Alors là, vous êtes chez vous. En revanche, il y a un tempérament à ce droit de propriété, normalement. C'est-à-dire que toute découverte archéologique appartient à l'État. Ouais. Là, pour le coup, c'est un droit de propriété.
On n'est pas obligé de le dire.
Si vous ne le dites pas et que l'État l'apprend, vous risquez d'avoir des problèmes.
D'accord. Si on trouve du pétrole.
Pareil, c'est la même chose.
Mais à qui est le pétrole?
Normalement, il est censé appartenir au propriétaire du terrain.
On est le roi du pétrole, là.
Oui, exactement. Mais faudrait-il trouver encore du pétrole en France?
Il y en a. Surtout, c'est qu'on creuse pas assez.
Peut-être.
Je suis sûr qu'il y en a.
Peut-être. Mais je pense que l'expropriation viendrait tout de suite.
Oui, mais à quel prix?
À quel prix? Parce que là, il faudrait une juste indemnisation.
Alors, justement, qui fixe le prix de l'indemnité d'expropriation?
J'allais dire, à votre avis?
L'État, évidemment. Voilà. Donc, par l'intermédiaire du
tribunal. Généralement, c'est le tribunal administratif qui décide.
Au prix des domaines.
Au prix des domaines.
Et c'est toujours très sous-évalué.
Alors, le domaine, en fait, ont des valorisations, parce qu'ils ont des bases de valeur de valorisation, et ils sont au courant de tout, parce qu'en fait, quand on fait une vente d'un immeuble, systématiquement, on est obligé de le publier au service de publicité foncière.
Publicité foncière.
Ouais, autrefois, on appelait ça la conservation des hypothèques. C'est devenu la même chose. Ce service de publicité foncière, tous les actes de mutation ou de vente d'immeubles passent par les bases de l'État. Donc l'État est très capable de pouvoir faire ses comparables. Alors des comparables sur des biens qui sont comparables. Pour reprendre votre exemple de la maison familiale, il n'y en a qu'une. Mmh. Et pour établir une valorisation...
Ça n'a pas de prix.
Exactement, d'autant plus.
Mmh. Et pour les souvenirs, ça ne s'achète pas.
C'est ça. Mais pour avoir un comparable de votre maison de famille... avec une autre maison qui serait à côté, c'est impossible.
Impossible.
Même pour valoir la valorisation de votre propre maison, il n'y a pas de comparable.
Mais non.
Donc, c'est là la limite de l'exercice. Et donc, les services des domaines donc de l'État agissent et établissent des valeurs pour le compte de l'État, parce que toute vente, toute cession, toute indemnisation doit être faite au visa d'un avis du domaine de l'État, donc qui permette d'évaluer, de mettre une valeur. Et cette valeur, ça peut marcher s'il y a beaucoup de comparables. Si vous êtes avec un bien qui n'est pas comparable,
c'est très arbitraire.
C'est assez arbitraire.
Et on peut le contester.
Oui, ça se conteste.
Donc,
il y a peu de chances d'aboutir, mais ça se conteste.
Donc je pense que ils vont se fonder déjà sur la valeur marchande vénale du marché immobilier local.
Oui.
Et ils vont peut-être ajouter un petit quelque chose pour faire avaler la pilule sur les bons souvenirs.
Non.
Même pas?
Non.
C'est du vol.
Oui, mais il n'y a pas de négociation en la matière. Il n'y a pas de négociation. Mais vous voyez, par exemple, on est dans cet immeuble-là, il y a deux appartements sur le même étage. C'est facile de comparer un appartement par rapport à l'autre. Mais comparer une maison qui est au fin fond de la campagne pour lui donner une valeur, comment vous faites? Parce qu'il n'y en a pas d'autres à côté.
Oui, c'est ce que je dis.
C'est pas possible. C'est compliqué. Donc, les méthodes de l'État sont des méthodes qui sont très dépassées. Et on arrive avec des valeurs qui sont très basses, en fait.
Oui, et pendant ce temps-là, on paye quand même des taxes foncières qui sont très hautes.
Oui, et qui sont assises sur une valeur locative. Parce qu'en fait, les taxes foncières sont assises sur la valeur locative des biens, une valeur locative qui est donnée par l'État. Cette valeur, par les services
c'est toujours très mystérieux d'ailleurs, personne n'y comprend rien.
Oui. Et cette valeur locative, pendant très longtemps, c'était des valeurs qui ont été données il y a très longtemps, donc n'avaient jamais été réévaluées. Et,
pour le plus grand bonheur des propriétaires.
Exactement, mais nos amis de Sarkozy, puis ensuite de Hollande, ont réévalué ces bases locatives, ce qui a permis d'avoir mécaniquement des hausses de taxes foncières.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas augmenté
le taux,
on a juste augmenté l'assiette.
C'est ça.
C'est facile.
Et les valeurs de taxes foncières, tout un tas de paramètres que ne comprennent que les fiscalistes. Je sais que par exemple, il suffit qu'il y ait 2-3 commerces pas loin. J'ai même appris qu'en fonction des salles de bain, on payait plus ou moins cher.
C'est exactement ça.
Vous pouvez habiter une masure, si vous avez 2 salles de bain, vous payez plus cher qu'une maison.
De même, tous ceux qui construisent une maison le savent. Quand ils construisent une maison, ils sont obligés de remplir un joli petit formulaire, un CERFA, pour dire combien il y a de chambres, combien il y a de salles de bain, etc. etc.
Et tout ça existe depuis longtemps.
Depuis que le permis de construire existe.
Ouais,
et ça permet.
D'évaluer.
Ça permet à l'État d'évaluer les taxes qu'il va pouvoir nous servir.
Oui, bien sûr. Oui, c'est toujours la même chose, quoi.
Oui, exactement.
Payer.
Bah, c'est le principe.
Cochon de propriétaire. Alors, ça, les réquisitions, là, on en a parlé.
Non, on n'en a pas parlé.
Ça peut exister, plus qu'on croit. Oui.
Ça peut exister, c'est assez rare. Enfin, moi, personnellement, j'en ai jamais vu, mais j'ai souvent entendu parler. Des réquisitions, c'est généralement les services de l'État qui vont requérir un bien qui serait vacant pour voir y loger.
La maîtresse du président.
La maîtresse du président ou le jeune migrant qui n'a pas de logement, par exemple.
Non.
Si. Mais si.
Vous rigolez ?
Non.
Ah bon ?
Ça arrive parce que ça fait partie de l'intérêt public.
Oui, mais s'il y a quelqu'un déjà dedans, on ne va pas quand même...
J'ai parlé de bien vacant.
Ah, vacant, pardon, excusez-moi, oui, j'ai pas, parce que ça, vous me rassurez.
Non, on ne va pas quand même mettre le propriétaire dehors pour y mettre quelqu'un d'autre. On n'en est pas encore arrivé là.
D'accord.
Une question, j'imagine.
Oui, allez-y, de votre douce voix.
Alors, un auditeur, je possède des hectares non constructibles... Impossible d'y mettre ne serait-ce qu'un cabanon pour les vacances. C'est vraiment abusif. Aucun recours, j'imagine. Émission passionnante.
Merci. Monsieur
et
madame.
Alors, pour parler de la question de l'hectare, de la non-constructibilité, ça c'est aussi une atteinte au droit de propriété, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie des prérogatives d'un propriétaire, c'est de pouvoir construire sur son terrain. Mais l'inconstructibilité vient des règles d'urbanisme et prive une partie... du propriétaire de ses prérogatives, droit de construire. Parce qu'on est dans une zone où on ne veut pas qu'il soit construit, pour des raisons...
Le fameux PLU, ou le fameux PADD...
Ou les zones agricoles, ou des zones dangereuses pour des raisons climatiques, comme on a pu le voir...
Les plans de protection contre les incendies ou contre les inondations.
Contre les inondations, c'est arrivé par exemple à la commune de L'Aigle, enfin, c'est arrivé plusieurs fois. Et donc, ce terrain peut devenir inconstructible du jour au lendemain et on ne peut rien y faire.
Oui, alors c'est vrai que bon, d'un côté,
là,
on
juste pour illustrer le truc, j'ai vu un exemple il n'y a pas longtemps où un propriétaire avait une petite villa au bord de mer. Entouré par 2 immeubles dégueulasses des années 70, pardon de parler comme ça.
Très moche,
voilà. Cette maison, une maison qui est assez mignonne en tout, mais on la voit bien sur la photo, on la voit bien encadrée par les 2 immeubles. Et il avait demandé de la démolir pour pouvoir reconstruire. Il a le droit de permis de démolir, mais il n'a pas le droit de reconstruire parce qu'entre-temps, son terrain est devenu inconstructible.
C'est pas vrai.
Parce qu'on est en zone inondable.
Et alors, ça, c'est la débilité administrative française, parce que les 2 immeubles, on ne va pas les détruire.
Non.
Donc, il y a bien des habitants dedans.
Oui.
Alors, eux, ils peuvent être inondés, mais le pauvre gars qui avait déjà sa maison là, il n'a plus le droit d'y habiter.
Non. Et puis, en plus, la maison est obligée à le démolir parce qu'elle est dans un état...
Et là-dessus, il n'y a pas de recours. Là, ça devrait aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme.
Ça peut.
J'espère qu'il en est un bon avocat.
J'imagine.
C'est scandaleux.
J'imagine, mais... Pardon. Il peut faire un recours déjà contre le tribunal administratif, remonter jusqu'au Conseil d'État. Mais là, comme il s'agit de règles impératives de protection puisque il s'agit de se protéger.
Oui, oui, bien sûr, mais avouez que c'est quand même pas normal. Si c'était la seule maison et qu'on l'ait prévenu avant,
oui,
rigueur.
Mais entre-temps, en fait, je ne pense pas que ce soit seulement ce terrain-là qui soit devenu inconstructible, parce que les deux autres
oui,
immeubles doivent être en zone inconstructible
déjà.
Voilà.
Ils sont peut-être en zone rouge par rapport au plan de protection contre les inondations. Mais après tout, c'est aux risques et périls des habitants. Je comprends qu'une commune dise « attention, ces eaux-là sont inondables, si vous construisez, c'est à vos risques et périls bon. ». Mais une fois que c'est construit...
Alors oui, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu aussi quelques scandales de zones construites alors que ça n'aurait pas dû l'être et des maires qui ont été un peu sanctionnés. Donc aujourd'hui, les maires ne veulent plus prendre ce genre de responsabilité et c'est un peu ceinture
de bretelles. Non mais il faut être un peu bête aussi pour construire dans le lit d'une rivière. Nos anciens ne le faisaient pas.
On est bien d'accord.
Donc ça c'est... Mais là où je conteste, c'est par exemple, vous avez un lotissement qui se construit... une zone pas dangereuse qui borde une forêt par exemple vous avez quelques terrains qui restent vierges de maisons mais qui sont en terrain constructible, du jour au lendemain le préfet dit ça devient inconstructible parce que c'est trop près de la forêt.
Par exemple, inconstructible. Mais l'inverse aussi existe, c'est-à-dire que vous pouvez être aussi propriétaire d'un terrain inconstructible.
Ah bah là c'est le jackpot.
C'est le jackpot, mais vous avez l'État qui ne vous oublie pas.
Oui, bien sûr.
Et qui vous dit qu'il y a une taxe pour les terrains devenus
constructibles. Oui, oui, ça, je m'en doutais.
Parce qu'il fallait bien...
Bien sûr, compenser. Non, mais à la limite, ça me choque moins.
Je suis d'accord.
Ça me choque moins, puisque là, il va faire un énorme bénéfice, parce que, forcément, entre un terrain constructible et un terrain constructible, comme dirait l'autre, il n'y a pas photo, ça va de 1 à 300.
Oui.
Surtout dans certaines zones.
Ah, tout à fait. Donc, pour revenir à la question de tout à l'heure, sur le terrain inconstructible, alors oui, c'est une atteinte au droit de propriété, mais il y a aussi un intérêt supérieur, c'est l'intérêt public qui fait que c'est devenu inconstructible et ça, on ne peut rien y faire.
Oui, enfin dans l'exemple...
En revanche, quand on porte atteinte au droit de propriété, systématiquement, il doit y avoir une indemnisation. C'est prévu dans la Convention des droits de l'homme.
Cher maître, je ne crois pas parce que, par exemple, moi, je connais quelqu'un qui avait un terrain constructible et qui pensait construire pour ses vieux jours. Il est devenu du jour au lendemain inconstructible. Il n'a jamais reçu quoi que ce soit d'indemnité.
Oui, je veux dire, c'est moche.
De tant pis pour lui, quoi.
Oui. Mais c'est
bravo. Bravo, le droit de propriété.
C'est
un scandale, comme aurait dit Georges Marchais. Non, mais enfin, bref. C'est la loi du plus fort, quand même, du pot de terre contre le pot de fer.
Le fait du prince.
Le fait du prince, mais enfin, quel prince.
Oui.
Les saisies.
Les saisies, là, on n'est plus dans le droit public, mais plutôt dans les droits privés. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait effectivement saisir un bien si jamais... pour reprendre un exemple, je vais juste prendre un exemple. Vous achetez votre maison... Et pour financer le prix d'acquisition de votre maison, vous allez souscrire un emprunt auprès de la banque. La banque va prendre une hypothèque pour se garantir, parce qu'elle ne prête pas sans garantie.
Oh là,
c'est normal.
Un droit réel, c'est ça.
Oui, mais c'est normal.
Oui.
Et si vous ne payez pas votre prêt, même si vous êtes propriétaire, la banque va saisir.
Oui, bon, ça, à la limite, je peux le comprendre. Après tout, c'est un risque.
Oui, généralement, une saisie, ça résulte d'un droit d'un créancier sur un débiteur.
Alors, si par exemple, je dis n'importe quoi, le débiteur doit encore 100 000 euros à la banque, la maison en vaut 300 000, il garde quand même les 200 000.
Alors, en fait, la banque va se payer de capital restant dû. Plus ses faux frais, les frais de dossier, les frais d'avocat, les intérêts et tout ça. S'il reste un reliquat, il reviendra à l'ancien...
Rassurez-moi, si la maison vaut vraiment beaucoup plus que ce que doit le débiteur...
Oui, mais normalement, il devrait avoir un reliquat, mais...
Oui, quand même,
mais
c'est pas sûr.
C'est pas sûr. En revanche, si c'est saisi, il a le droit à rien. Parce qu'en fait, le principe de la saisie, c'est qu'en fait, vous devenez propriétaire au lieu et place du propriétaire. Mais ça se passe devant un tribunal.
La banque pour revendre, non ?
Oui, elle va revendre. Mais en fait, en réalité, généralement, quand il y a une saisie, c'est que la banque n'est pas le seul créancier.
Oui.
Il y a d'autres créanciers. Donc en fait, le reliquat va servir à rembourser la banque.
Les créanciers.
Et puis les autres créanciers, notamment le trésor public, parce que vous n'avez pas payé les taxes foncières, par exemple.
Oh, bon, pas forcément.
Ça arrive. Ça, généralement, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive en saisie, c'est que en fait, déjà le créancier est dans une situation financière très obérée. Donc,
C'est tout. Quand tout va mal, tout va mal.
Bah, voilà. Donc en fait,
les embêtements volent en escadrille.
Exactement. Donc le reliquat sert à payer les autres créanciers. La plupart du temps, c'est comme ça.
Donc
ça
on
marche.
Peut le retrouver dans une tente igloo à côté de chez lui. Il reste le terrain quand même.
Tout à fait. Ouais.
À quoi que non.
Bah non, le terrain a été saisi aussi puisque.
Ah oui, l'accessoire c'est le principal.
Exactement.
Il me reste des notions juridiques.
Je suis impressionné.
N'est-ce pas?
Juste pour nos auditeurs, pour qu'on ait bien la question en tête, c'est qu'en fait le principal c'est le terrain et les constructions sur le terrain c'est de l'accessoire. Et on dit l'accessoire sur le principal, c'est-à-dire qu'en fait quand on est propriétaire du terrain, on est propriétaire du reste.
Ce qu'il y a dessus. Ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, mais en revanche ce qui est amusant c'est que le terrain seul, même si c'est constructible, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est la maison en fait qui lui donne la valeur.
On est d'accord.
Bon. Et là, ce qui m'a toujours amusé, c'est que par exemple, un propriétaire d'un terrain peut permettre à quelqu'un d'autre de déposer un permis de construire sur son terrain.
C'est possible.
Voilà. Généralement, c'est en vue de l'acheter.
Oui.
C'est à condition suspensive. C'est-à-dire, si j'ai mon permis, je vous rachète tout.
En fait, dans le cadre d'une acquisition immobilière, ça se passe de la manière suivante. C'est-à-dire qu'en fait, on se met d'accord pour acheter, d'accord sur la chose et sur le prix. On va signer une promesse de vente. Et au terme de la promesse de vente, on va donner accord au futur acquéreur de pouvoir déposer un permis de construire pour pouvoir lui permettre de gagner du temps. C'est la fameuse garantie suspensive d'obtention de permis. Et une fois qu'il a obtenu son permis de construire, le candidat acquéreur devient acquéreur et achète le terrain. C'est comme ça que ça se passe.
Voilà. Et c'est là où le terrain vaut très cher, puisqu'il a déjà.
Mais en fait, le terrain, dans le prix de la promesse,
comporte déjà le...
Exactement, le droit à construire.
Oui, parce que la construction sera à la charge de l'acquéreur, on est d'accord.
De toute façon, oui. Mais en fait, ça, c'est lorsque un particulier, par exemple, vend sa maison à un promoteur immobilier, généralement, le prix est plus cher que s'il avait vendu la maison, en fait. Parce que je vais prendre un exemple. Si vous avez un propriétaire qui est propriétaire de son petit pavillon du côté de Cormeilles-en-Parisis, par exemple... il vend son petit pavillon, il vend...
Il vend le terrain avec, forcément.
Oui, mais il vend son pavillon avec le terrain à Monsieur Machepro.
Oui.
Bon, il va le vendre 300 000. S'il le vend à un promoteur, il va le revaloriser parce qu'il aura obtenu le droit de construire, il va le revendre 400 000 ou 450 000.
Tant mieux pour lui.
Plus cher, tant mieux pour lui. Mais il faut comprendre que si on vend à un promoteur, ça vend plus cher parce qu'en fait, le promoteur n'achète pas seulement le terrain, il achète les droits à construire.
Ah oui, non, mais ça, d'accord, oui, ce qui est moral et normal.
Tout à fait.
C'est comme ça que vous vous retrouvez avec un immeuble à côté de chez vous de 12 étages alors que vous avez gardé votre pavillon, je parle pour les voisins.
Ben, exactement.
Et c'est le jackpot pour... ceci dit, après, ça dépend aussi du droit de l'urbanisme de la ville.
Absolument. Le fameux plan local d'urbanisme dont on parlait tout à l'heure.
Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de villes qui limitent à 2 étages.
Exactement. Mais les droits à construire ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, pour un promoteur, le droit de construire 2 étages, ça ne vaut pas le même prix que construire 12 étages.
Évidemment, parce que lui, il se payera sur le nombre. Et puis, un immeuble collectif qui aura 20 appartements va se vendre beaucoup plus cher qu'un terrain constructible pour mettre qu'une maison.
Oui. Il faut prendre aussi en compte, ça c'est une petite parenthèse, il ne faut pas oublier qu'un promoteur, quand il vend, ce n'est pas un prix immobilier, c'est un prix technique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans son bilan promoteur, il tient compte de la valorisation du terrain qu'il a acheté et du coût technique pour construire et les honoraires des personnes qui sont intervenues pour l'aider à construire.
Dieu sait s'il y en a.
Et Dieu sait s'il y en a. Et donc, c'est ça qui fabrique le prix. Je sais un petit peu sa marge. Mais enfin, une marge de promoteur, c'est pas énorme. Hein. Vraiment, c'est...
Moi, je sais que dans ma ville, où j'habite... la mairie a racheté un bâtiment, c'est une ancienne usine désaffectée.
Oui.
Donc évidemment, qui reste constructible. Et les promoteurs se sont roulés.
Oui, dessus.
Ils m'ont misé sur le bas clergé breton. Et là, il y a une opération immobilière à faire, qui est extraordinaire, mais qui est tout bénéfice pour les propriétaires de l'usine.
Oui.
Mais évidemment, les voisins râlent. Mais les promoteurs ne sont pas idiots. Bon, on peut dire qu'ils les achètent. Mmh. En fait, ils disent, bah, écoutez, c'est simple, votre maison, je dis n'importe quoi, vaut 300 000, on vous en offre 600 000 et puis vous dégagez.
Oui, bah, c'est ça.
C'est ce qui se passe. Oui. Il y a beaucoup de gens qui finissent par dire oui.
Mais oui.
Sauf quand c'est une excellente et belle maison de famille.
Ça, c'est différent.
Il faudra payer très cher.
Oui. Voilà.
Mais ils ont le droit de s'y opposer.
Oui,
et là,
alors,
la mairie ne peut rien faire, ni le promoteur.
Ah non, non, mais là,
donc, on a des belles villas qui restent entourées d'immeubles plus ou moins de bon goût.
C'est ce qu'on appelle des opérations de remembrement, en quelque sorte, fait par le promoteur. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent les terrains les uns à côté des autres pour avoir un plus bel ensemble immobilier.
Qui entoure un château fort.
Exactement. Et alors, si je peux me permettre un petit conseil, ceux qui sont propriétaires du quartier et qui sont vendeurs, il faut qu'ils soient le dernier. Parce que c'est le prix du chantage. Ils peuvent vendre plus cher.
Bah oui, ça j'imagine.
C'est un peu le
Merci
village gaulois.
De nous donner ces conseils. Des questions, il y a beaucoup de questions. Cette émission intéresse énormément les auditeurs.
C'est incroyable.
À croire qu'ils sont tous des belles propriétés.
Oui.
Tant mieux. Ou alors, acquéreurs. Alors, allez-y, ma chère Marguerite.
Alors, une voisine est très bruyante, claquement de porte, baie vitrée, etc. Elle lui a signalé ses nuisances et la voisine les nie. Qu'est-il possible de faire ? Merci.
Pour la police de tous les jours.
Ah, exactement, j'allais dire, il faut appeler le commissariat d'à côté. Hein.
Elle aura une amende, deux amendes, trois amendes, mais malheureusement, ça n'ira pas plus loin.
Mais si elle se trouve, la voisine est sourde et elle n'entend pas le bruit qu'elle fait.
Oui, il y a peut-être aussi ça, c'est malheureux. Oui, une autre question.
Bonsoir. A-t-on intérêt à se rendre chez le notaire pour trouver un logement à acheter ? Car certains offrent des annonces immobilières. Les frais sont-ils différents qu'en agence avec les commissions ? Très belle émission.
Alors, certains notaires font effectivement de la transaction immobilière, ça arrive. On voit la petite étude notariale avec écrit le notaire c'est ici, et dans la vitrine, il y a plein de biens immobiliers à vendre. Il y a aussi les sites internet. Oui, certains notaires ont développé un service de transaction pour revendre des biens immobiliers, c'est tout à fait légal. En revanche, le notaire n'est pas soumis à la loi Auguet. La loi Auguet, c'est ce qui régit les agents immobiliers. C'est pas la même. On n'est pas sous le même régime. Et le coût des honoraires chez les notaires, je crois, je n'en ai pas une certitude, je crois qu'ils sont un peu moins chers que ceux des agences. Mais avec une agence, ça peut se négocier. Mais négocier les honoraires d'une agence, il faut s'accrocher.
Accélérons, il ne reste plus beaucoup de temps. Non, mais ce n'est pas de votre faute, c'est de la mienne. J'ai qu'à faire la police de l'émission.
Oui.
Alors, il y a un auditeur qui vous contredit, là.
Ah.
Oui.
Ah.
Ça arrive, allez-y. Marc.
Il a été dit qu'un propriétaire est aussi possesseur du sous-sol, sauf en cas de présence de pétrole ou de ressources minières qui deviennent alors la propriété de l'État.
Comme par hasard. Qu'est-ce que vous en pensez, non ?
Il a peut-être raison.
Non, ok. Bon, ça arrive très souvent en France.
Oui, mais je ne voudrais pas lui donner tort.
Oui,
c'est un auditeur de cette direction radio.
Non, mais vous avez peut-être donné des faux espoirs à cet homme qui pensait...
Moi, normalement, le principe du droit de propriété s'exerce de la manière la plus absolue.
Mais je crois que malheureusement...
Mais effectivement...
Devant les convoitises étatiques.
Mais parmi les atteintes au droit de la propriété, il y a effectivement une législation sur les propriétés minières.
Allons-y, encore une question.
Lors d'une succession, le notaire vient pour estimer les meubles.
Oula,
mais si le défunt possédait un Van Gogh, on est tenté de le décrocher du mur, surtout si on est l'héritier unique.
Alors, deux choses. Un, le notaire n'est pas en mesure et ne rentre pas dans ses missions d'estimer les meubles, donc ça on ne fera jamais. Sauf qu'un notaire, dans ce cas-là, fait venir un commissaire-priseur qui, lui, a la compétence de le faire. Donc c'est le commissaire. Donc le notaire sera accompagné de son commissaire-priseur pour pouvoir faire la prisée.
Ou je vous arrête parce qu'il peut faire aussi un forfait. Notaires sont aptes à faire des forfaits meubles.
Alors c'est l'administration fiscale qui nous autorise de faire ça. C'est un forfait de 5% sur la valorisation des actifs successoraux. Généralement, c'est ce qu'on utilise parce que c'est beaucoup plus simple.
Oui, d'autant plus que les meubles aujourd'hui ne valent plus grand-chose, même les meubles de famille.
Et en termes
affectifs,
l'adage romain, on dit res vilis.
Oui, je sais bien, mais enfin, on croit avoir des beaux fauteuils Louis XVI ou des armoires normandes, et en fait, copie ou pas copie, de toute façon, ça ne vaut plus rien puisque plus personne n'en veut.
Oui, mais c'est très drôle parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je croise un ami qui me dit qu'ils voulaient faire estimer tous les biens dans leur château. Ils s'aperçoivent qu'ils avaient un magnifique mobilier et de très beaux tableaux. Et ils se sont aperçus que lorsqu'ils ont fait estimer, que c'était tous des copies. Ça ne valait plus rien.
Ça me rappelle au plaisir de Dieu, les sostènes.
Exactement, ouais. Exactement. Et pour terminer sur la question qui était posée, sur le fameux Van Gogh, le Van Gogh qui a été décroché, mis dans, un lieu sûr, bah ça s'appelle une fraude, en fait.
Une quoi, une ?
Une fraude.
De sortir les Van Gogh.
Oui. Mais bon, est-ce qu'on peut se faire attraper par la patrouille ? Ça, c'est une autre histoire. Alors, on se fait attraper par la patrouille, non pas au moment de la succession.
Oui, au moment de la vente.
Au moment de la revente.
Ah oui, forcément.
Parce
donc
fait, l'État, de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, s'y retrouve.
Mais bien sûr. Alors, une question amusante, là. Doit-on donner son autorisation aux avions qui survolent sa propriété ? Bon, c'est, théoriquement, c'est, oui, mais en fait...
Ce n'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, il y a des servitudes pour ça, des servitudes d'espace aérien.
Quant au trésor, c'est vrai qu'il y a le fameux trésor, je crois que si un propriétaire découvre un trésor, il est quand même à lui.
Non, ça appartient à l'État.
Un trésor ? Il n'y a pas 50% pour l'inventeur ?
Alors, oui, si c'est...
C'est après, qu'est-ce qu'on appelle trésor ?
Voilà, mais si c'est un trésor archéologique, ça appartient à l'État.
Ah oui, archéologique, mais si c'est par exemple un coffre, comme Harpagon avec une belle pièce d'or.
Alors là, vous partagez avec l'État, mais si vous trouvez des restes d'un dracar ça ne vous appartient pas.
On est obligé de partager avec l'État ?
Ça, vous partagez pas, ça appartient à l'État. Point.
Non, mais je parle du coffre avec mes pièces d'or.
Vous pouvez toujours n'en parler à personne, le déterrer nuitamment et le garder pour vous.
Les écouler petit à petit.
Et bien ensuite, un jour ou l'autre, on vous demandera d'où ça sort.
De chez moi. Alors, le Ravance, il y a des choses terribles qui se passent. On en entend parler parfois qui font les gorges chaudes des médias. C'est les fameux... Les occupations sans droit ni titre, d'appellation épouvantable, squat, comme on ne doit pas dire à Radio Courtoisie.
Alors ça, c'est une vraie plaie. Une vraie plaie. Alors, on a le gouvernement, enfin le Parlement a légiféré à multiples reprises sur les histoires des squats, et on a du mal à s'en dépatouiller. Et pour le coup, là, c'est une vraie appropriation d'un bien immobilier. Vous retrouvez dans votre maison et dans cette maison, vous retrouvez qu'en fait, vous n'êtes plus chez vous, quoi. Et c'est là pour le coup, c'est super choquant. Et en fait, il faut 48 heures à partir du moment.
Quand vous avez passé 15 jours de vacances et que vous rentrez, qu'ils sont là déjà depuis 8 jours.
Le pire, c'est quand c'est votre résidence secondaire. Vous arrivez, passez vos vacances au mois de juillet et puis vous arrivez qu'en fait, finalement, elle est occupée déjà depuis 3-4 mois. Voilà. C'est horrible. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance. Il y a une nouvelle tendance, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens qui viennent prendre un Airbnb et s'installent.
Qui partent plus.
Et qui partent plus.
Faites attention. Je n'ose pas dire le mot, c'est épouvantable. Airbnb, je ne sais même pas ce que ça veut dire.
C'est une marque.
Oui, il n'y a pas un nom français pour dire. C'est une location à court terme.
Oui, mais en fait, Airbnb, c'est le nom du site qui organise ce genre de choses. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
Enfin, il faut trouver un nom français, monsieur. Maître.
Donc là, c'est une vraie difficulté. Alors, on peut expulser les occupants. Sans droit ni titre, mais il faut porter plainte, obtenir un jugement. C'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis ensuite, il y a le deuxième effet qui se coule. Il faut demander l'expulsion. Vous ne pouvez pas le faire avec vos gros bras et mettre les meubles sur
le... C'était le but du jeu, quand même. C'est le but
Pas possible.
Mais
vous avez obtenu le droit de l'expulser, et ensuite, il faut l'expulser. Et pour l'expulser, il faut avoir le concours de la force publique. Et le concours de la force publique, c'est le préfet qui leur donne. Et aujourd'hui, par exemple, Paris...
Il y a autre chose à faire.
Pour Paris, on est en déni de justice sur le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, la préfecture de police refuse...
Non.
De prêter main forte à ça.
C'est pas vrai.
Elle préfère indemniser le propriétaire.
Ah, quand même.
Plutôt que d'expulser quelqu'un.
D'accord. Quand on dit indemniser, c'est-à-dire.
Payer un loyer.
Payer un loyer. Donc ça va, si c'est payer un loyer.
Oui, mais surtout, si vous avez un jeune.
Ça peut dégrader. En fait, le capital meurt, mais on est quand même.
Un peu indemnisé. Et selon les valeurs.
Personne ne voudra racheter, occuper.
Selon les fameuses valeurs de France Domaine.
Oui, je vois. Oui. Oui.
Ou les bases locatives. Et il y a un autre sujet, ce qui peut arriver aussi, c'est que vous vous trouvez donc avec un appartement, vous êtes sous promesse, et puis vous achetez de l'appartement, et vous découvrez quand vous ouvrez la porte de votre nouvel appartement, vous êtes tout content, vous allez chez vous, et vous apercevez qu'il y a une famille.
Qui est pas, on se renseigne quand même avant d'acheter.
Oui, normalement oui. Et le conseil que l'on donne systématiquement, c'est que la veille ou le jour même de la signature de l'acte de vente, on va les voir sur place.
Ah voilà.
Il faut
jamais acheter que sur plan.
Ouais. Voilà, il faut. Enfin, on peut le faire.
Plan, en... quand c'est en construction, mais je parle.
On peut le faire en état final d'achèvement, mais ouais, pour un bien pas... qui est déjà, ouais, déjà achevé, il faut aller voir. Il faut aller voir. D'abord, ça permet de voir que tout, tout va bien. Et puis, s'il y a deux, trois petits trucs qui ne vont pas bien, bah, ça permet d'en discuter au moment de la vente. Maintenant, pour mon exemple, ils achètent un appartement. Cet appartement, ils découvrent une famille qui était dedans. Et cette famille, en fait, en réalité, on fournit un bail.
Aïe, aïe, aïe.
Un bail qui n'a pas été signé par le propriétaire.
Mais alors par qui ?
Par une association de défense, etc., et de relogement, de ce genre de gens.
Si on n'est pas propriétaire.
Ah
ben... Donc on fait, ils font croire qu'ils sont de bonne foi, mais c'est, alors, c'est des resellers de
les faux bailleurs sont parfaite mauvaise foi.
Ouais.
En revanche, le locataire, lui, il est de bonne foi.
Oui, oui. Enfin,
Et à ce titre, on a considéré qu'ils devaient rester là parce qu'ils étaient de bonne foi.
Non, mais c'est, enfin,
c'est hallucinant. Hallucinant. Mais...
Et là... c'est même plus des squatteurs, donc on a même plus la...
Ah mais c'est même organisé.
Ce que je veux dire, c'est que c'est encore plus difficile de récupérer son appartement.
Ah oui.
Bon, après tout, il paye un loyer quand même.
Même pas. Même pas. Il y a un bail, mais il ne paye pas le loyer.
Bah, alors là, il y a la procédure ordinaire d'expulsion d'un locataire qui ne paye plus son loyer.
Mais là, vous allez vous retrouver dans une procédure. Il faudra prouver que vous ne payez pas les loyers, que ce n'était pas le propriétaire, qu'ils n'étaient pas le propriétaire, que le bail est nul, etc. etc.
Bon. Enfin, les notaires qui sont des auxiliaires de justice, il me semble.
Non.
Non,
non.
Un notaire n'est pas un auxiliaire de justice.
Non. Non, on est officier ministériel ou officier public, mais on n'est pas auxiliaire de justice. L'auxiliaire de justice est plutôt un avocat.
Mais alors, donc... comment vous dites, officier ministériel, ça fait très chic, qui n'a que le ministère du papier, de la plume et de la parole.
En tant que notaire, j'agis sous délégation de l'État.
Oui.
J'ai la force ou le pouvoir de faire des actes authentiques. Ouais. L'acte authentique, c'est en quelque sorte un jugement gagné. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'en fait...
Excusez-moi, je vous interromps parce qu'on reste deux minutes. Vous êtes quand même censé protéger... l'acheteur d'un certain nombre d'indélicatesses que pourrait faire le vendeur.
Je suis là pour constater l'accord des parties.
Oui.
Et ensuite, si en droit civil, code civil, consacre le principe de l'exécution ou de la souscription de contrat, de bonne foi. Si vous avez l'une des parties qui n'est pas de bonne foi, alors dans ce cas-là, il devra indemnisation à l'autre co-contractant.
Est-ce que les notaires vont voir systématiquement ce qui...
Non.
Ah oui, donc lui-même, le notaire peut être dupe.
Oui, tout à fait, ça nous arrive et c'est pour ça qu'on se méfie.
Responsable.
On se méfie aussi souvent de ce que peuvent nous dire nos clients parce que
oui, c'est terrible.
C'est pour ça qu'on demande systématiquement des justifications, des pièces, etc. Parce que.
Peuvent avoir toutes les justifications de droit de propriété, tout ce que vous voulez.
Alors, en matière de droit de propriété, c'est compliqué de gruger.
Non, mais justement, de ne pas gruger. Vous avez un droit de propriété, vous avez acheté un studio, vous voulez le revendre parce que justement, il est occupé par des squatteurs. Bah, le nouvel acquéreur, s'il ne va pas voir le studio, il n'en sait rien, il achète un bien qui est déjà occupé.
Exactement.
Et passer muscade.
Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut visiter avant.
Voilà. Bien, maître, nous arrivons déjà à la
déjà,
fin de... Mais oui,
le
mais
temps
oui.
passe trop vite.
Vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense? Enfin, je veux dire pour...
je vous rappelle que je ne suis pas un auxiliaire de justice.
Mais je sais. C'était une boutade, une plaisanterie, une galéja, le maître. Ce droit de propriété, donc, tout ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il est de plus en plus attaqué, en fait.
Oui.
La conclusion de tout ça. Et que je crois que c'est... comment il s'appelle, là, le gars du... Davos qui a dit vous serez propriétaire de rien.
Karl Schwab.
Voilà. Répétez ce qu'il a dit.
Il a dit qu'en fait on ne serait propriétaire de plus rien, on serait dans un monde de l'usage.
Voilà, ce qu'on nous prévoit, c'est en fait tous des consommateurs et plus d'intermédiaires.
En fait,
avec
c'est
l'État.
Les hommes déracinés.
Voilà. Je vous coupe parce que l'émission est terminée. Non, mais
il y a encore beaucoup de choses à dire.
Je recevais, ce sera l'occasion de faire une autre émission. Recevais maître Olivier Duparc. Je remercie Stéphane à la technique. Vous étiez bien sûr à Radio Courtoisie au bal des facétieux. Rendez-vous dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le bal des facétieux dirigé par Charles-Henri Deslois, assisté de Marguerite, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 11 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.